Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Sur l'antenne de Radion, il est 11h, passé de quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour votre émission littéraire. En effet, jusqu'à midi, c'est Wagon Livre. Et aujourd'hui, nous vous proposons la deuxième et dernière partie de notre émission consacrée aux 90 ans du Front populaire dans l'Yonne. Il s'agit d'une émission que vous avez déjà pu entendre en 2018, suite à l'organisation en 2016 par l'association Adiamos 89 d'un colloque à Auxerre sur le Front populaire dans l'Yonne. Vous allez aujourd'hui donc entendre trois historiens membres de l'Association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux, Sophie Barré, Denis Martin et Frédéric Gant. Je rappelle d'ailleurs que pour prolonger ce formidable thème de victoire sociale du Front populaire en 1936, vous pouvez vous procurer les actes du colloque de l'association Adiamos 89 sur le Front populaire dans l'Yonne, en le commandant auprès de votre libraire habituel, mais vous pouvez également le commander sur le site internet de l'association Adiamos 89. La semaine dernière, nous avons présenté les forces politiques en présence dans notre département. En tout cas, le Front populaire aura été une étape essentielle dans la construction d'un État social en France. Tous les secteurs de l'Yonne ne fournissent pas les mêmes contingents pour le Rassemblement populaire qui effectivement unit pour les élections législatives d'avril 1936, les socialistes, les radicaux et les communistes. Les vieux clivages sont toujours là, la Puisaye penche à gauche et la Vallonnais à droite, les villes votent à gauche et les campagnes à droite. Auxerre, Sens et Joigny ont leur contingent de militants de gauche, mais aussi de droite, et sont des villes très actives. Il y a aussi le cas plus emblématique, la ville rouge, Sémigène, c'est la seule ville où on trouve toute la panoplie des organisations de gauche. La droite a ses fiefs dans la Vallonnais et le Tonnerrois, avec ses leaders Flandin et Perrault-Pradier qui tiennent solidement leur territoire. L'extrême droite perce depuis 1934 et le 6 février, dans le nord du département, à Pont-sur-Yonne, Sergine, Sens, ainsi qu'à Joigny et singulièrement à Ravière, où un fort groupe de militants effectue des exercices paramilitaires et défile en scandant les communistes au poteau et en faisant le salut à la Hitler. Nous allons bien sûr aujourd'hui, avec nos trois historiens, évoquer le premier tour des élections législatives qui a lieu le 26 avril 1936. Et le Front populaire est effectivement aussi dans la défense des conditions et des classes les plus modestes, mais il s'agit aussi de faire barrage à l'extrême droite. Frédéric Gant.
Outre le programme qui annonce effectivement la paix et le pain, à travers le troisième triptyque le troisième élément du triptyque est la liberté, il y a en fait derrière le fascisme, c'est-à-dire la lutte contre ceux qui veulent supprimer ou gêner la démocratie. Le fascisme, c'est un véritable marqueur très important dans cette campagne électorale. Nous avons vu mercredi dernier combien il était important de resituer sa montée en Europe et la réaction des organisations de gauche qui jusqu'alors étaient extrêmement divisées, socialistes contre communistes, et qui là vont se réunir. On avait évoqué le comité Amsterdam-Pleyel, c'est-à-dire le comité de lutte contre la guerre et le fascisme, qui était dirigé dans Lyonne par un jeune instituteur qui s'appelait Louis Aubry. Et donc ce comité s'implante très tôt, hein, je crois que c'est le 14 juillet 1933, alors que le comité de rassemblement populaire, c'est-à-dire le comité de Front populaire, qui réunira les trois partis, parti radical, parti communiste et parti socialiste, lui ne voit le jour qu'en 1935. Et donc, ces deux organismes vont s'épauler l'un l'autre pour mener les élections contre la droite traditionnelle, dont une frange à l'extrême droite est accusée de faire la part trop belle aux ligues et à l'extrême droite. Je peux vous donner par exemple un extrait qui va vous montrer à quel point la campagne et l'opinion publique est polarisée par le fascisme. Donc, je vous parlais à l'instant donc, du comité de lutte contre la guerre et le fascisme. Il avait publié un petit organe qui s'appelait tout simplement, un journal qui s'appelait Front Populaire de Lyon, hein, qui était l'organe donc de ces comités de lutte. Et dans un de ses premiers numéros de janvier 1936, il pourfend donc la guerre et le fascisme et il fait apparaître dans la première ou deuxième page une petite rubrique qui l'intitule Les fascistes de Lyon. Et les premiers cités sont Jean Commergnat, Robert Guillet, donc des industriels, Jean Moreau, annoncé comme marchand de nouilles et berlingots, Pierre Souty, accessoire auto, qui était accusé d'être croix de feu. Donc on voit très bien que le fascisme est un marqueur. Vous en êtes ou vous n'en êtes pas.
Sophie, un petit mot peut-être aussi sur l'antisémitisme. Je reviens notamment sur un événement qui a eu lieu au début de 1936. Là, on est avant les élections. Je crois que c'est février 1936. Léon Blum, par exemple, qui est agressé et blessé par des camelots du roi, alors que Léon Blum, qui va être donc le chef de file de ce front populaire. Alors, on pourra revenir sur cette figure de Léon Blum parce que je pense qu'elle est incontournable. Léon Blum est agressé. Il faut dire aussi que dans la rue, on entend certains Français dire plutôt Hitler que Blum. Il y a aussi autour de Léon Blum un antisémitisme qui remonte quand même à la surface, un vieux démon français tout de même, l'antisémitisme.
Oui, effectivement, Léon Blum va déchaîner les fantasmes. Il va être attaqué à l'Assemblée nationale, en particulier par Xavier Vallat, qui parle d'un talmudiste subtil. Et d'ailleurs, il va recevoir plein de courriers qui vont le féliciter pour ses prises de position à l'Assemblée nationale. C'est un peu les seuls courriers de félicitations qu'il va recevoir. Donc on a effectivement cette ambiance antisémite qui s'installe, qui s'affirme pendant cette période-là. Alors ça s'explique par le fait qu'il y a beaucoup de juifs allemands qui arrivent en France à ce moment-là, qui fuient Hitler, qui fuient depuis 1933 le régime nazi. Ça va là encore alimenter les fantasmes, provoquer des rejets, de la peur. Et on va le retrouver un peu partout dans la société. Ça touche la droite, l'extrême droite, mais les milieux de gauche ne sont pas non plus insensibles à ces idées-là. On le retrouve un peu partout.
Concernant Léon Blum, Sophie, il faut dire que Blum avait commis un texte de jeunesse dans lequel il autorisait les femmes à avoir des relations avant même le mariage. Texte qui fit scandale, je ne sais plus en quelle année exactement.
Oui, c'est
1897-98, non ?
Oui, je ne sais plus exactement non plus, mais effectivement, il est là, il est très féministe, en quelque sorte. Il va aussi, c'est à ce moment-là aussi qu'il défend le droit de vote des femmes, ce qu'il ne fera pas une fois qu'il sera au gouvernement, mais à ce moment-là, il est très favorable aussi à la condition féminine.
Il faut dire aussi qu'avec ce front populaire, tout d'un coup, les modestes, les ouvriers, je pense les ouvriers agricoles, parce que revenons à notre département de Lyon, Sophie Barré, il y a beaucoup de femmes qui sont des employées de ferme, qui sont des petites servantes de paysans, parfois un petit peu bien établis et riches d'une certaine manière. Les femmes ne sont pas forcément dans les usines, elles sont aussi dans les fermes.
Ah, les femmes, elles sont partout, oui, effectivement. Elles sont. C'est un département très rural, donc la majorité des femmes ont des emplois agricoles. Et ces femmes dans les campagnes ne sont pas tellement préoccupées par le droit de vote encore à ce moment-là. Elles n'ont pas des revendications féministes très, très fortes. Elles restent très traditionnelles encore.
Et discrètes en fait.
Et discrètes,
pas
oui.
Revendicatives.
Pas dans les campagnes, pas beaucoup dans le milieu des campagnes, plus dans les villes.
Frédéric Gant.
Oui, je pense qu'on peut peut-être dire un mot de la stratégie qui a été menée par la droite et la gauche lors de la campagne du Front Populaire, on va dire à partir du mois de janvier. Donc en fait, on a deux conceptions. On a la conception de la droite, qui est assez implantée notamment dans la Vallonnais et dans le Tonnerrois, avec respectivement donc Pierre-Étienne Flandin pour la Vallonnais et Pierre Perrault-Pradier pour le Tonnerrois, qui, Pierre-Étienne Flandin, lui, c'est assez facile à comprendre. Il est en poste, donc il peut pas être sur place. Il fera une campagne éclair, d'ailleurs. Alors que Perrault-Pradier, lui, va sillonner pratiquement toutes les communes de sa circonscription électorale, y compris tous les hameaux, avec le soutien, il faut quand même le dire, très bienveillant du Bourguignon. L'ancêtre de Lyon républicaine.
Qui est le journal phare.
Qui est le journal Lyon phare, qui est le seul vraiment journal qui a un rayonnement départemental et qui va donc essayer de convaincre. C'est la tactique des hommes de droite très implantés. En revanche, la gauche a une stratégie très différente. L'accent est plutôt mis sur les tracts, sur les affiches et les grands meetings qui, au départ, ne vont pas être si nombreux. Il n'y aura pas tant d'affluence que ça. Mais c'est dans les dernières semaines, avant le 26 avril, qu'on va avoir monté en puissance très fort les meetings. Alors il faut dire un tout petit mot aussi sur l'organisation. La gauche est très organisée. C'est ce qui fera sa force. Elle est organisée à deux niveaux. Déjà parce qu'elle cherche dans ce qu'on a appelé tout à l'heure le comité de rassemblement populaire ou le comité du Front Populaire. Vous savez, celui qui est dirigé par Jules Pourin, un instituteur en retraite socialiste. Donc elle va rassembler donc la SFIO, elle va rassembler le Parti communiste, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération nationale des combattants républicains. C'est les anciens combattants qui sont à gauche. Et elle va organiser des conférences, faire venir un certain nombre de groupes d'intellectuels. Il va y avoir, par exemple, c'est très intéressant de voir les gens qui sont venus dans Lyon parler, là, un conférencier qui s'appelait Martin, qui va expliquer que la crise est le résultat d'une mauvaise répartition de la production et des richesses. C'est très moderne. Alors, je ne sais pas s'il a eu beaucoup d'affluence, mais à l'époque, on voit qu'on est en pleine effervescence intellectuelle. Et donc, c'est comme ça que progressivement, la Ligue des droits de l'homme aussi va faire des conférences, va faire venir le secrétaire de la Ligue, l'avocat du barreau René Walter, pour expliquer la participation des communistes dans le Front Populaire. Et petit à petit, va apparaître l'idée, et on en dira peut-être un mot dans un instant, qu'il faut une logique de désistement des électeurs. En clair, celui qui arrivera en tête au premier tour sera le candidat de la gauche, quoi qu'il arrive, qu'il soit socialiste, radical ou communiste, et les électeurs devront voter pour lui au second tour. C'est une discipline électorale qui demande à chacun qui était au premier tour, chaque candidat, d'appeler ses électeurs à voter pour le candidat qui est en tête à la gauche.
Oui, c'est fondamental pour faire gagner un candidat du Front Populaire, quelle qu'en soit son origine politique.
Mais vous doutez bien que ça peut créer des frustrations au niveau local pour celui qui, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, qui est radical, comme Verrier à Joigny, et qui sait qu'il risque de ne pas se retrouver gagnant au second tour. Dans sa circonscription.
J'aimerais tout de même que vous fassiez un petit commentaire sur ce thème des 200 familles. Parce qu'on a parlé de spoliation, de volonté de redistribution et de partage. Il faudrait expliquer ce qu'était ce thème des 200 familles, qu'aujourd'hui est peut-être encore vrai d'ailleurs.
La thématique est simple. Il s'agissait de dire qu'en gros, la France était aux mains de la bourgeoisie. Et qu'il y avait 200 grandes familles qui noyautaient le pouvoir économique et politique. On est là sur une explication de type marxiste qu'on peut résumer assez simplement. Les forces de production, c'est-à-dire les usines, appartiennent au patronat. Et grâce à cette force de production qui est la propriété privée, ils exploitent les ouvriers. Donc c'est la classe dirigeante qui exploite la classe ouvrière. Et ces 200 familles, donc, par leur influence, verrouillent le gouvernement. C'est par exemple, pour prendre un exemple bourguignon, c'est Schneider, qui est à la fois à la tête de son usine au Creusot et qui est en même temps président du Conseil. Donc il faut lutter contre ces 200 familles. C'est une thématique très forte au sein du Parti communiste.
Denis Martin.
Les 200 familles, en fait, trouvent leur origine dans la direction de la Banque de France. Parce qu'en fait, il y avait 200 familles qui étaient représentées à la direction de la Banque de France. Donc, c'est De là viennent les 200, le chiffre des 200.
Si vous prenez notre émission en cours de route, c'est Wagon Livre, émission littéraire et historique aujourd'hui, puisque nous revenons sur le Front populaire dans l'Yonne en 1936 avec nos trois historiens invités et membres de l'association Adiamos 89, Sophie Barré, Denis Martin et Frédéric Gant, que nous retrouvons juste après la première pause musicale que nous vous proposons.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous tournons les pages de l'histoire locale avec nos trois historiens membres de Adiamos 89. Nous revenons en effet sur la victoire du Front populaire dans l'Yonne en 1936. Je rappelle que l'ensemble des forces de gauche, des communistes ou radicaux, recueillit 5 400 000 voix contre 4 200 000 à la droite. Cette avance se trouva amplifiée par le double effet du scrutin majoritaire et de la discipline dite républicaine. Le Front populaire eut 380 élus, la droite 220. Sa victoire suscita bien sûr un immense enthousiasme dans les couches sociales défavorisées qui piaffaient d'impatience dans l'attente de réformes de structure. Alors bien sûr, à la veille des élections législatives et notamment du premier tour qui a lieu le 26 avril 1936, l'importance du report des voix à gauche est essentielle et les stratégies politiques à gauche et à droite se mettent en place. La droite, elle, joue la carte de la paix. Elle parle aussi de la liberté du commerce du blé, un argument important dans le département de l'Yonne, qui est un département essentiellement rural. Explication et développement par Denis Martin.
Effectivement, la droite mène campagne pour les législatives sur trois thèmes principaux. Donc la paix internationale, on assiste là déjà à une préparation, une préfiguration de ce que sera Munich. C'est-à-dire surtout ne pas se fâcher avec nos voisins, surtout ne pas embêter M. Hitler, ne pas embêter M. Mussolini. Donc on laisse Hitler réarmer, on laisse Mussolini envahir l'Abyssinie, et puis on espère comme ça maintenir la paix en Europe. L'histoire démentira de façon cinglante cette analyse de la droite. La liberté du commerce. La liberté du commerce, grande tradition de la droite, surtout que l'État ne se mêle pas de commerce et d'économie. Surtout, aucune législation sur le travail, aucune législation sur l'encadrement des prix, aucune législation notamment sur ce qu'on va appeler ensuite l'office du blé, c'est-à-dire un prix garanti pour les paysans, pour leur production de blé, la France étant grande productrice de blé. Et puis, en fait, en dernier lieu, très politiquement, refus du marxisme, la droite proclame Urbi et Orbi, le Front populaire, c'est Moscou, c'est le communisme, on va vers une dictature communiste.
Alors justement, comment les paysans, est-ce que l'on sait comment les paysans de Lyon se positionnent politiquement ? Est-ce que, alors évidemment dans les paysans, il y a peut-être les riches propriétaires agricoles, puis il y a le petit ouvrier agricole, il y a des différences sociales importantes.
Alors dans Lyon, on a effectivement quelques grandes exploitations, plutôt dans le Sénonais, là on touche la Brie, on est dans les grandes fermes, mais et la grosse majorité de la paysannerie de Lyon, c'est des fermiers qui sont à la fois propriétaires et locataires de leurs terres, qui sont... La grande propriété commence à 30 hectares à l'époque. Hein, donc les paysans dans Lyon exploitent en général 15-20 hectares. Et puis, il y a, ne pas oublier, les vignerons qui ont de petites parcelles, mais qui peuvent être assez riches. Le vin se vend bien. Donc, on a toute une démocratie paysanne, une propriété assez morcelée, et ces propriétaires votent radical socialiste depuis très longtemps. Donc la question c'est, est-ce que ces électeurs qui votent radical socialiste, est-ce qu'ils vont aller au second tour voter pour des socialistes et des communistes ? L'expérience montrera que oui, puisque la gauche est majoritaire au lendemain des législatives dans Lyon.
Frédéric Gant.
Oui, je pense que la difficulté, c'est qu'on a du mal à cerner une véritable identité paysanne dans Lyon comme en France, parce que c'est un monde extrêmement éclaté. Vous pouvez avoir des gros céréaliers, comme l'a dit Denis, vous pouvez avoir des grands producteurs, vous pouvez avoir des vignerons, vous pouvez avoir des petits exploitants, des ouvriers agricoles.
Des bûcherons.
Et tous n'ont pas forcément la même conscience ou sentiment d'appartenance. Et il existe surtout une multitude d'exploitations, de petits syndicats qui sont souvent des coopératives, qui ne sont pas toujours politisées. Et pour rassembler tout cet ensemble hétéroclite, existe ce qu'on appelle l'UPI, dont le secrétaire général est René Massot, qui s'intitule l'Union des paysans de Lyon, et qui cherche finalement à les rassembler en se disant très apolitique, mais qui est assez proche effectivement des radicaux socialistes, c'est-à-dire en gros c'est des centristes qui tendent à droite, tantôt tendent à gauche, et qui défendent surtout les intérêts corporatistes. Et on l'a dit mercredi dernier, le marasme est tel que les prix agricoles baissent et qu'il faudrait, pour qu'ils puissent s'en sortir, qu'ils puissent augmenter. Or, les gouvernements ne veulent pas, puisqu'ils mènent des politiques de déflation, c'est-à-dire de lutte contre l'inflation des prix, les gouvernements ne veulent absolument pas remonter les prix. Ce qui pose un vrai problème, et qui posera un vrai problème au Front populaire, même une fois qu'il sera élu, parce que comment voulez-vous, si vous augmentez les prix, ne pas faire aussi donner des avantages aux gros producteurs ? Ce qui est difficile pour ces hommes politiques, y compris Léon Blum, c'est que s'ils augmentent les prix, ils augmentent les petites marges des petits exploitants, mais ils augmentent aussi les spéculateurs. Or, l'Office du blé dont on a parlé tout à l'heure a été conçu pour justement bloquer les prix. Et on verra, la presse en est émaillée, de nombreuses confrontations entre les différents groupes, qu'ils soient socialistes, communistes ou autres, qui vont chercher à approcher le monde paysan. C'est un vrai nœud gordien à trancher. Comment peut-on aider les paysans sans aider les gros, les petits paysans sans aider les gros? C'est une vraie question.
Alors laissons de côté les paysans. Maurice Thorez avait tendu la main aux catholiques. Alors ça aussi, c'est nouveau, et effectivement ça consistait à dire que finalement le communiste comme le catholique était victime de la vie chère, du chômage, voilà, il y a une même réalité quand bien même on a des idéologies ou des...
Oui, le 17 avril 36, la station Radio Paris donne pour la première fois la parole au secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, qui dit, je cite un passage assez inouï, nous te tendons la main, catholique, ouvriers, employés, artisans, paysans, nous qui sommes des laïcs, parce que tu es notre frère, Nous te tendons la main, volontaire national, ancien combattant devenu croix de feu, parce que tu es un fils de notre peuple. On voit cette volonté avant le premier tour des élections de rassembler le peuple, de faire fi des différences. Peut-être aussi que derrière, il y avait un calcul qui était celui de dire que finalement, on le voit d'ailleurs dans certains organes de presse proches des catholiques, cette idée que la solidarité, elle peut être aussi bien communiste que religieuse.
La campagne électorale a été assez belle. Il faut reconnaître que c'est un temps très très fort dans le pays. Pas trop d'incidents à déplorer dans le département de l'Yonne. Pas trop de violence non plus. Une certaine sérénité autour des programmes. Alors au premier tour, donc le 26 avril 1936, il faut élire 5 députés pour le département de l'Yonne. Alors quels sont les résultats? Un nouveau visage politique de l'Yonne, comment ce nouveau visage se dessine-t-il après les élections législatives?
Alors, quelquefois, ça a été quand même agité. Il y a eu quand même, notamment quelques jours avant, un certain nombre d'échauffourées. Je vous cite, par exemple, un extrait du Bourguignon du 23 avril 36, lorsque Roussel, qui était candidat à droite à Auxerre, se plaint des méthodes des militants de gauche. Il dit, je cite, « À Saint-Sauveur, où je viens de passer, les arguments de mes adversaires étaient les cris répétés de « À mort, tue-le ». Donc on a quelquefois des échauffourées. Je donne un autre exemple. Par exemple, Perrault Pradier, au cours d'un meeting qui était contradictoire, on a oublié qu'il n'y avait pas que des meetings partisans. Il y a eu aussi des meetings contradictoires où il y avait un président de séance et on faisait venir tous les candidats qui étaient présents. Alors à Tonnerre, donc ça a été le cas. Et donc le marquis de Tanlay va donc apporter la contradiction aux représentants du Front Populaire, donc Lévy, qui était un ancien combattant. Et voilà ce que va dire Lévy. Il lui répond, alors que l'autre l'a accusé, en gros, d'être un juif, et il répond, « Quand j'étais dans les tranchées et que je recevais des obus sur la figure, on ne me posait pas de pareilles questions. » Donc on voit que ça a été assez tendu. Alors on va peut-être pas rentrer trop dans les détails. Alors pour ce qui est des résultats,
alors, dans l'Yonne, effectivement, 54% pour le Front Populaire, 46% pour la droite. Quel est le parti politique qui est le grand gagnant, alors, Frédéric Gand?
Alors, le grand gagnant, c'est le Parti Socialiste. Alors, je vais peut-être rappeler quand même quels sont les députés qui sont élus. Donc, dès le premier tour, il y a 3 députés sortants qui sont réélus. C'est René Tour pour Auxerre, Flandin pour Avallon et Perrault Pradier pour Tonnerre. Et à partir de là, il restait 2 circonscriptions où il y avait donc un second tour. C'est celle de Sens et celle de Joigny. Donc celle de Sens, où Paul Campargue pour le Front Populaire était au coude à coude avec Lazare Bertrand, qu'il devançait d'une petite centaine de voix seulement, alors qu'à Joigny, Maxence Rold, socialiste, comptait lui plus de 2000 voix d'avance sur Lucien Roche. Donc au second tour, le 3 mai, Campargue sera élu avec plus de 1000 voix d'avance sur Lazare Bertrand, et Rold le sera avec près de 2000 voix d'avance. Donc là, on voit bien que la logique de désistement et de report des voix a fonctionné.
Sur le plan national, les communistes ont doublé leurs voix. C'est les grands gagnants sur le plan national, mais pas dans l'Yonne. Dans l'Yonne, c'est les socialistes qui sont les grands vainqueurs.
Oui, c'est vrai que dans l'Yonne, c'est sûr que ce sont les socialistes qui en mènent le morceau. Les communistes, quand même, peuvent être satisfaits puisqu'ils doublent le nombre de leurs voix. Bon, ils étaient très bas dans l'Yonne, donc c'était peut-être pas très, très difficile, mais ils ont quand même doublé leurs voix, donc ils plafonnent à quelque chose de 10%, à peu près, ils passent de 5% à 10%. Les socialistes remportent. Mais ce qui est quand même remarquable, c'est que ce département, qui est majoritairement radical, n'élit aucun député radical. C'est-à-dire que là, on a une vraie poussée à gauche avec les socialistes qui en sont des grands bénéficiaires.
Donc une gauche qui a su se mobiliser et un électorat qui avait compris les enjeux pour que le Front Populaire puisse remporter ces élections législatives.
Voilà, je crois que l'opinion publique a été très attentive aux thématiques nationales. Et donc, l'Yonne vote comme la France, votent pour la République, votent pour la gauche.
Alors ensuite, bien sûr, Léon Blum va composer le gouvernement. Léon Blum est donc président du Conseil. Alors il y a un président de la République. On dit président du Conseil, ce qui est l'équivalent aujourd'hui de Premier ministre. Donc Léon Blum est l'équivalent du Premier ministre et il forme son gouvernement. Et là, on trouve de belles figures dans ce gouvernement. Alors j'en donne quelques noms. Il y a Daladier, Vincent Auriol, Jean Zay, Léon Lagrange, Roger Salingros, qui est ministre de l'Intérieur, dont on reparlera plus tard, parce qu'effectivement, il y a eu une scandaleuse campagne de calomnie contre lui. Et puis, surtout, alors je ne sais pas, là, je vais peut-être demander à Sophie son avis, c'est qu'il y a trois femmes sous-secrétaires d'État. Et ça, c'est aussi une innovation formidable. Trois femmes sous-secrétaires d'État.
Oui, et c'est un paradoxe parce qu'elles n'ont pas le droit de vote et elles sont au gouvernement. Donc trois femmes qu'il a choisies en fonction de leur couleur politique. Donc la première, Cécile Brunswick, qui est une radicale, qui va être sous-secrétaire d'État à l'éducation nationale. Qui était présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes. Vient ensuite Suzanne Lacor, qui elle était SFIO, qui va s'occuper de la protection de l'enfance. C'était une enseignante qui était assez timide et lui a dit, Léon Blum lui a dit, vous n'aurez pas à diriger mais à animer. Et la dernière, donc, c'est Irène Joliot-Curie, qui est plus proche du Parti communiste, qui est sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique. Donc on voit bien que ce sont trois femmes qui sont nommées, mais elles sont nommées sous-secrétaire d'État. Elles sont sous la tutelle d'un ministre. Et même si on prend le cas de la sous-secrétaire d'État à l'éducation nationale, en fait, son rôle concerne les cantines, la santé scolaire et la formation des filles. Donc ça reste quand même des places assez subalternes par rapport aux hommes. La première, donc Cécile Brunswick, elle s'est battue beaucoup pour le droit de vote des femmes. Et finalement, une fois qu'elles sont rentrées toutes les trois au gouvernement, cette préoccupation, elle la met de côté. Bien qu'il y ait une pression forte, le jour de l'annonce du gouvernement, il y a 4000 femmes qui sont devant l'Assemblée nationale et qui insistent pour que les femmes aient le droit de vote. Mais ces trois femmes vont battre en touche finalement et vont s'occuper de leur ministère plutôt que du droit des femmes pour le vote.
Alors dans les actes du colloque, et ça a donc dû être dit lors du colloque, il y a cette question qui est posée par un journaliste du grand journal Le Bourguignon, qui est le quotidien local départemental. La femme mariée peut-elle être ministre sans autorisation de son mari, Sophie Barré?
Justement, Irène Joliot-Curie s'était battue pour que Blum ne demande pas l'autorisation à son mari. Alors il va le faire quand même, il va y aller de manière informelle, mais elle avait précisé qu'elle n'avait pas à demander l'autorisation de son mari.
Peut-on dire qu'au niveau du droit de vote des femmes, Sophie Barré, 1936 est un rendez-vous manqué?
Oui, parce qu'elles se sont battues, elles se sont investies justement en espérant que cette fois ça allait être la bonne, hein, parce qu'on l'a déjà dit, Blum s'était prononcé pour le droit de vote des femmes avant son arrivée au pouvoir, donc elle souhaitait vraiment que ça se mette en place. Mais très rapidement, elles vont être déçues. Louise Weiss dit que ne va pas être trois hirondelles. Enfin, elle dit que trois hirondelles ne vont pas faire le printemps. Et effectivement, il va falloir qu'elles attendent 1944 pour qu'elles puissent avoir le droit de voter.
Nous allons marquer dans notre wagon livre sur Radio un nouvel intermède musical. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à midi avec nos trois invités, historiens et membres de l'association Adiamos 89, Sophie Barré, Frédéric Gant et Denis Martin.
Tu l'amour du vice, la fin des glaces, à coups de face, ou pile. La nuit je danse, danse, et tu reviens quand on ne s'aime plus. L'été, l'hiver, un goût amer, non je ne rêve plus. Soleil, soleil.
Émission littéraire.
Si vous venez de nous rejoindre sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi, émission consacrée à la victoire du Front populaire dans l'Yonne en 1936. Et bien sûr, il faut évoquer les nombreuses grèves en France et dans l'Yonne. À partir du 10 juin 1936, à l'imitation des métallurgistes de la région parisienne, un mouvement de grève frappe d'abord le Sénonais, puis s'étend au reste du département. À Sens, 300 métallurgistes réunis le 9 juin à la Bourse du Travail déclenchent le lendemain une grève aux usines Fichet et Pont-à-Mousson. Un cahier de revendications est à chaque fois remis au directeur de l'entreprise, auquel est demandé principalement une hausse des salaires. La grève s'étend aux autres entreprises, comme la bonneterie Gillier, où 120 ouvrières, je cite le petit régional du 12 juin 1936, passèrent la nuit avec des moyens de fortune, mais avec le sourire. Sens devient le laboratoire départemental de l'organisation de la grève sur le tas. À Auxerre, 1200 ouvriers se réunissent à la cantine scolaire et approuvent le mouvement de grève de Sens. Aux usines Gillier, la grève à Auxerre est importante avec ses 1200 ouvriers. Comme à Sens, une délégation rencontre la mairie. Alors avec l'extension de la grève au département, un grand mouvement de solidarité se déploie en faveur des grévistes et une partie de la population, sans être forcément de gauche, est touchée par la détresse des familles et par le courage des ouvriers dont la presse révèle les faibles salaires. Lyonne, donc, Sophie Barré, n'échappe pas au grand mouvement de grève.
Oui, effectivement, Lyon n'a pas échappé à la règle. Dès le mois de juin, toutes les grandes entreprises du département ont été le théâtre de grèves, donc ce qu'on appelle des grèves sur le tas. Les usines étaient envahies et c'était une occupation continuelle. Les ouvriers ne quittaient pas leur lieu de travail.
Et sympathique d'ailleurs, voilà. Avec respect de l'outil de travail, on ne dégrade rien.
Tout dans la bonne humeur, avec des chants, avec des balles, avec c'était bon enfant. Et moi, je m'intéresse plus aux femmes.
Oui, alors justement, Sophie Barré, il y a cette question, est-ce que les femmes peuvent passer la nuit à l'usine? Doivent-elles rentrer à leur domicile? Ça, j'ai trouvé cet aspect passionnant, vous pouviez le développer, s'il vous plaît.
Elles l'ont fait quand c'était des usines où il n'y avait pratiquement que des femmes. Mais c'était mal vu dans les entreprises mixtes. Parce que c'était mal vu qu'une femme découche, autant un homme pouvait le faire sans souci, autant pour une femme c'était tout de suite
malvenu,
voilà. Donc par contre, elles ont beaucoup participé, elles ont ravitaillé les grévistes, elles se sont occupées de collecter des fonds ou des denrées pour les grévistes. Elles ont été très, très actives. Elles étaient par contre pas leaders, elles ont été très revendicatives. active, mais elle, c'était pas elle les chefs. À part effectivement dans les entreprises où il y avait que des femmes, mais en général, elles étaient, c'était pas elles qui prenaient les décisions, c'était les hommes qui les encadraient.
Il n'y a pas dans les usines iconaises en mai-juin 36 de passionnariat genre Dolores Ibarruri ou de Louise Michel sur le tas. Non, pas de figure marquante, pas de nom qui reste comme ça.
Il y a une syndicaliste qui apparaît dans les conventions qui sont signées. Mais c'est souvent des hommes qui signent les conventions collectives.
Denis Martin.
On a quand même, à Sens notamment, venant des usines de chaussures, on a quand même des femmes qui sont dans la délégation qui se rend à la mairie, etc., et à la sous-préfecture pour les négociations. Et donc là, on a deux femmes quand même qui ont réussi à être dans... ils étaient 6 ou 8, je crois, les délégués. Il y avait quand même deux femmes. Donc c'était quand même important et on a quand même l'émergence là de leaders femmes qui sont allées négocier au plus haut niveau avec le patronat.
Alors je voudrais signaler aussi qu'il y a des annexes qui sont nombreuses. Il y a des documents iconographiques dans les actes du colloque, mais il y a aussi une annexe qui répertorie alors par le secteur de Sens, Auxerre, Tonnerrois, toutes les entreprises et le nombre de jours de grève avec en plus accord ou pas. J'ai vu qu'il y a une entreprise, alors je crois que c'est dans le Sénonais, elle n'a fait que 3 heures de grève, mais pour certaines usines, par exemple les usines Guillier à Auxerre, donc là on est dans l'univers de la métallurgie, ce sont des usines où les grèves ont été dures et longues, très suivies, au point même que le patron, Guillier, menace d'arrêter l'activité et de fermer l'usine. Denis Martin.
Oui, donc alors, ce qu'il faut déjà remarquer, c'est que dans Lyon, les grèves sont tardives. Elles arrivent après les accords Matignon. C'est-à-dire que quand les ouvriers se rendent compte qu'on peut obtenir l'application des accords Matignon, là, ils se mettent en grève. C'est-à-dire ils font leur cahier de revendications, vont voir leur patron. Voulez-vous appliquer les accords Matignon? Oui, non. Oui, pas de problème. Comme Jean Moreau à Auxerre, la chocolaterie, tout de suite, il accepte les revendications de ses ouvriers. Donc, il n'y a pas de grève. Et puis, les autres, comme les usines Guillet à Auxerre, où là, on refuse même de recevoir les délégués ouvriers, où là, la grève se déclenche immédiatement. Et elle est longue et elle est dure. Elle dure plusieurs semaines. Et le patron, Guillet, refuse de négocier, dit « je démissionne », il part en vacances en Italie avec sa famille, en déléguant à son fondé de pouvoir toute responsabilité pour mener les négociations. Guillet, il a fallu même que le ministre du Travail de l'époque s'en mêle pour faire aboutir les revendications et fasse signer un compromis d'accord. Donc, il y a eu des situations extrêmement diverses dans le département avec des résultats un peu différents d'une usine à l'autre.
Et la population iconaise est-elle solidaire de ces grévistes? Alors, partagée ou pas?
Oui, alors c'est aussi un marqueur extrêmement important. La population de Lyon soutient effectivement les grévistes. On a des collectes dans les campagnes, on a des listes de souscriptions qui sont ouvertes un petit peu partout. Et on voit que dans les petits villages, les vignerons donnent du vin, les cultivateurs donnent des pommes de terre, des carottes, etc. Et on voit des commerçants dans les villes qui donnent des fromages, qui donnent de la limonade, qui donnent un tas de choses. Et toutes ces denrées arrivent dans les usines grévistes pour nourrir les grévistes.
Chez Guillet, il y a même des offres de services, des coiffeurs qui viennent gratuitement coiffer les ouvriers. Il y a même des offres de distraction, des chanteurs qui viennent faire des concerts, des musiciens qui viennent faire des symphonies. C'est extraordinaire.
Nous avons parlé des accords de Matignon. Je crois qu'il faut tout de même rappeler les avancées sociales qu'apportent les accords de Matignon. Ça, c'est quelque chose quand même de très, très important.
Oui. Alors, il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup des congés payés, la loi des 40 heures, mais qu'au départ, dans les accords Matignon, c'était avant tout les conventions collectives. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que les choses ne sont pas imposées d'elles-mêmes. Il a fallu tout un travail de négociation très long, branche par branche. Hein, ça rappelle un peu les lois du travail qu'on a connues récemment. Donc, il y a eu tout ce processus de négociation et même l'application des 40 heures a été l'objet de différents décrets qui sont imposés progressivement suivant les branches de travail dans le commerce, dans l'agriculture. L'agriculture, ça a été d'ailleurs très tardif. Donc, tout ça pour expliquer que le patronat, au début, a pensé qu'il pourrait échapper à un certain nombre de dispositions législatives qui, il faut bien le dire, leur imposaient un délégué syndical, enfin je ne rentre pas dans les détails, leur imposaient de reconnaître donc une représentation aux ouvriers, ce qu'ils ne voulaient pas, ils étaient avant maîtres chez eux, et qui les obligeaient, bien sûr, avec la loi des 40 heures, à embaucher, parce qu'au début, on l'oublie, mais le but de la loi des 40 heures, c'est aussi, comme la loi des 35 heures avec Aubry, le but,
créer de l'emploi.
C'est de créer de l'emploi. Hein. Donc, ça les obligeait à prévoir des nouveaux emplois, ça les obligeait à augmenter les salaires. Donc, ça fait beaucoup de choses quand même pour le patronat et des fois des petites entreprises. Alors, je peux vous citer quelques extraits pour vous montrer à quel point on voit que le patronat a cherché vraiment à renacler, à chercher à ne pas appliquer ces mesures. Alors, par exemple, ici, on a quelques extraits d'un texte qui est envoyé par Paul Fourré, qui représentait l'Union départementale des syndicats, qui était proche de la CGT, donc on va dire des communistes, pour faire simple, et qui envoyait régulièrement des revendications au préfet, qui avait le rôle d'arbitre entre le patronat et les ouvriers. En fait, il faut bien replacer ce cadre général. Et donc, il dit, le 28 juillet 36, en parlant de plusieurs ouvriers qui ont été licenciés, ces renvois multiples démontrent de la part des patrons la volonté délibérée d'aller à l'encontre des droits syndicaux, des contrats collectifs et des lois sociales et de créer des difficultés au gouvernement. Le 30 avril 1937, le Bourguignon écrit à propos de l'entreprise L'Orèche de Saint-Julien-du-Sault un article pareil, ça s'intitule « Bon patron et bon ouvrier » et montre ce que pensent de leur côté les patrons. Et il est sous-titré, cet article, « Le bel exemple de la direction du personnel des usines L'Orèche à Saint-Julien-du-Sault ». Et donc, un patron s'exprime, je cite, « Nous avons la satisfaction de tous les dirigeants de la maison L'Orèche, union dans le travail, conscience professionnelle, concorde, collaboration, tout ceci ressortant d'autant mieux en ces périodes où certains cherchent à creuser un fossé entre ouvriers. » Donc on voit très bien, là, c'est l'idéal perdu du patronat d'avant 1936.
En tout cas, pour les petites gens, pour les humbles, les modestes, c'est un peu la fin du patron de droit divin, tout de même. Enfin, on arrondit un petit peu les angles du pouvoir du patron, tout de même. On ne se rend pas compte aujourd'hui, en 2018, dans quelles conditions ou dans quelle ambiance de travail travailler les...
Tout à fait. Et d'ailleurs, beaucoup d'ouvriers, on n'a pas gardé les traces de tout cela, mais on en a aux archives départementales de Lyon, ont des fois directement écrit au préfet, qui était donc, je le disais, la sentence arbitrale, en quelque sorte, l'arbitre, qui lui-même était très embêté parce que, comme on était dans une innovation législative, ne savait pas toujours comment faire appliquer telle ou telle disposition. Notamment, c'était très difficile pour tout ce qui est congé payé, les 2 semaines. Et il n'y avait pas dans Lyon, de surcroît, d'inspecteur du travail. Il y en avait un à Dijon, exactement à Lonvic, et un autre à Troyes. Donc à chaque fois, ça prenait un petit peu de temps pour avoir l'avis de l'inspecteur du travail qui allait valider la nouvelle législation. Mais effectivement, les ouvriers n'hésitaient pas, ou les femmes, moi je me souviens très bien avoir lu une femme de ménage qui dit, voilà, est-ce que j'ai mon compte d'année? Il fallait avoir fait un an avant la période de congé, qui est en gros entre juillet et octobre, pour pouvoir disposer, bénéficier des 2 semaines, des 12 jours, et qui demande, est-ce que j'ai le droit à avoir ces congés? Et on lui dit, non, les décrets d'application ne sont pas passés pour votre métier.
En tout cas, les congés payés, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans les actes du colloque, il y a ce jeune apprenti qui dit à un ouvrier plus âgé, lui dit, mais comment veux-tu que le patron... Enfin, il y a des gens même qui doutent de la réalité en disant, mais comment veux-tu que le patron me paye des vacances quand déjà, en temps normal, il paye mal mon travail. C'est tout à fait... C'est drôle, mais c'était quand même une victoire sociale époustouflante. On ne s'en rend plus bien compte aujourd'hui, sans doute.
Oui, alors tout le monde était un petit peu étonné, y compris les ouvriers en premier chef. On a même des ouvriers qui allaient tous les jours de leurs vacances voir à l'entrée de l'usine, voir cette usine aux grilles fermées, c'était un spectacle étonnant. Personne n'avait jamais vu ça. Donc, les premiers bénéficiaires étaient les premiers étonnés.
Mais il n'y a pas eu d'évacuation par la force publique d'usine. Il n'y a pas de patrons qui ont fait appel à l'armée ou aux forces publiques pour chasser les grévistes occupant l'entreprise.
Non, dans Lyon, les grèves se sont passées calmement. C'était un département peu agité. Et d'autre part, le patronat a été très, très lent à se regrouper et à réagir. Il faut attendre l'automne 1936 pour que le patronat fasse une grande réunion à Migennes pour enfin s'unir et essayer de contrer les lois sociales du Front populaire. Ils ont été pris de court, ils ont été surpris par le mouvement de grève et ils ont réagi en ordre dispersé, ce qui est effectivement qui est très mauvais pour une corporation.
Alors on ne peut pas évoquer tous les aspects, Sophie Barré.
À Sens, par exemple, dans une usine de corsets, au moment où les femmes, alors c'était que des femmes, quand elles ont voulu faire appliquer la convention collective, ça s'est très mal passé, il y a eu un conflit de 12 jours, le patron a eu une réaction très violente envers la déléguée syndicale. Il a fermé l'usine, il a fermé l'usine en disant qu'il n'y avait plus de travail, alors qu'en fait les ouvrières ont témoigné qu'il y en avait encore. Et à la fin, effectivement, de ce conflit, il y a eu trois licenciements. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait non plus toujours facilement. Il a fallu se battre et souvent les délégués du personnel n'ont pas retrouvé leur travail.
Frédéric Gant.
On peut dire, à l'appui de ce que disait Sophie, que finalement, après le temps de l'opposition et de la bipolarisation entre les fascistes, les réactionnaires et les gens de gauche suspectés d'être vendus à Moscou et d'internationalistes, eh bien, le conflit s'est déporté dans l'entreprise, dans la boutique, dans la société civile. Et là, j'ai un article qui le montre bien. C'est un petit extrait du congrès départemental de l'Union départementale des syndicats du 25 avril 1937 qui s'est tenu à Auxerre. Et voilà la résolution dont je vous cite un extrait, qui montre bien d'ailleurs toutes les avancées sociales, y compris dans le domaine syndical dont on a assez peu parlé. Le Congrès se félicite du magnifique développement des organisations syndicales de notre département, dont les effectifs passent de 2400 à 12 000 adhérents. Le Congrès prend acte de très heureuses réalisations sociales obtenues grâce aux luttes ouvrières, à la CGT et au Front populaire. Il note que les salariés apprécient pleinement les avantages acquis. La semaine de 40 heures, les congés payés, l'application des lois sociales se concrétise néanmoins par le renvoi abusif des militants syndicaux ou de délégués d'atelier, par le sabotage de la production, le lock-out, hein, c'est-à-dire la fermeture violente par les patrons des entreprises, la violation des contrats, la hausse des prix. Donc on voit que le combat cette fois se poursuit à ce niveau-là.
Sophie Barré.
Et on voit à la fin du conflit que le patron a accepté les 40 heures, les congés payés, les contrats collectifs, mais dans l'article 8, il fait préciser que les ouvrières devaient travailler en silence, être ponctuelles, de ne pas manquer sans avertir. Si elles avaient plus de 4 réprimandes à ce sujet, elles risquaient le licenciement. Et enfin, dans l'article 9, il s'engage à ne prendre aucune sanction en cas de grève et le personnel s'engageait de son côté à travailler consciencieusement, sans prosélytisme durant la durée du travail. Donc on voit que c'est quand même mitigé comme acquis.
Alors on voit que tout ne s'est pas fait en fait aisément, hein, bien évidemment, et que d'autres tensions ont dû naître tout de même suite aux accords Matignon avec l'application de ces réformes sociales. Le monde agricole, nous avons parlé de Lyon comme étant un département très rural, et il l'est encore en 1936, bien évidemment. Le monde rural y connaît. A-t-il été le perdant par rapport au monde de l'industrie ?
Alors, il n'y a pas vraiment de perdant, mais c'est vrai que notamment les ouvriers agricoles n'ont pas gagné grand-chose. Les producteurs de blé ou de lait, eux, ont tiré leur épingle du jeu grâce à la régulation des prix, l'office du blé. Bon, l'office du lait n'a jamais été créé, mais c'était grâce à l'office du blé, le revenu minimum des paysans a pu être sauvegardé. L'ouvrier agricole, lui, pour le coup, n'a pas gagné grand-chose. Les 40 heures inapplicables en agriculture, les augmentations de salaire n'ont pas été appliquées non plus dans l'agriculture. Donc le monde paysan n'a rien gagné. N'a rien gagné au Front populaire. Et dans l'Yonne, département rural, on peut dire que la grosse masse de la population n'a quand même pas gagné grand-chose.
Frédéric Gans, c'est vrai qu'aussi en termes d'augmentation, c'est des augmentations de salaire de 15% tout de même, ce qui est beaucoup.
Oui, mais dans le monde paysan, ça n'a pas été appliqué.
D'accord.
Et pour les hommes, pas pour les femmes.
Oui, je pense qu'on peut quand même dire que le grand perdant, c'est le monde agricole. Parce que, Denis Martin l'a bien dit, les conditions des accords Matignon, les progrès sociaux étaient applicables essentiellement dans un monde ouvrier ou pour des travaux où les horaires sont faciles à évaluer. Mais dès qu'on touche à la boutique, et dès qu'on touche à l'artisanat, et a fortiori dès qu'on touche au monde agricole...
Les services, l'hôtellerie, la restauration...
Et a fortiori pour l'agriculture, c'est impossible. De plus, il faut bien se rendre compte qu'il y avait une autre difficulté, c'est quelquefois, sur une toute petite exploitation, vous aviez des chefs d'exploitation qui employaient leurs enfants. Donc la législation leur imposait de s'affilier à une caisse d'allocation familiale, leur imposait de leur donner 12 jours de congés payés, qu'eux-mêmes ils ne pouvaient pas s'octroyer à eux. De plus, on sait très bien qu'on ne pouvait pas appliquer la semaine des 40 heures pendant la belle saison agricole, ce qui fait que la préfecture a même fait paraître un calendrier pour les différentes activités, le bûcheronnage, les vignerons. Il a fallu appliquer, amender, modifier, composer avec le calendrier agricole. Donc je pense que même si l'intention était là et qu'elle était bonne et que tout a été fait de la part du Front populaire pour aider le monde agricole, ça ne s'était pas techniquement possible. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a eu beaucoup de gens du monde agricole qui ont considéré que c'était un programme et des réformes ouvriéristes.
Merci à nos trois invités historiens, membres de l'Association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux de l'Yonne. Merci pour leur participation à l'occasion du 90e anniversaire de la victoire du Front populaire dans l'Yonne. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, vous pouvez vous procurer les actes du colloque que Adi Amos 89 avait organisé à Auxerre en 2016. Le Front populaire dans l'Yonne peut se commander auprès de votre libraire habituel ou sur le site internet de Adi Amos 89. Nous nous retrouvons samedi prochain, 20 juin 2026 à 11h, avec Dominique Missica, historienne et écrivaine, documentariste également pour la chaîne parlementaire. Elle signe un essai biographique intitulé « Irène Némirovski », qui est un vrai personnage de roman, une héroïne complexe, ardente et torturée. Cette romancière qui n'obtint jamais la nationalité française, mais qui avait fui la Russie communiste pour venir en France, est morte à Auschwitz en 1943. Elle a connu le Paris des années folles. Elle est devenue une star avec le succès retentissant de son roman David Golder, puis une épouse comblée et une mère tendre. En tout cas, elle semblait heureuse avant-guerre, forcément heureuse. Image trompeuse. Pour en savoir plus sur la vie et l'œuvre d'Irène Némirovski, je vous invite donc à écouter l'émission de la semaine prochaine, émission avec l'historienne Dominique Missica qui signe Irène Némirovski, une vie inachevée, disponible en librairie aux éditions de Noël. Il s'agit d'une émission enregistrée en public à Semur en Auxois, en Côte d'Or, dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à samedi prochain.